Chapitre 7 Vahadash 1 Des chevaux gris, fit Eddie. Si fait, acquiesça Roland. 50 ou 60, tous sur des chevaux gris. Si fait, c'est ce qu'ils ont dit. Et ça ne leur a pas paru bizarre une seule seconde? Se demanda Eddie, perplexe. Non, il faut croire que non. Mais c'est bizarre, non? 50 ou 60 chevaux, tous de la même couleur. Je dirais que oui. Ces gens de la Cala, ils élèvent des chevaux, non? Si fait. Et ils les ont amenés pour nous. Eddie, qui n'avait jamais monté un cheval de sa vie, était reconnaissant que la question ait été remise à plus tard, mais il n'en dit rien. Si fait, ils sont attachés derrière la colline. Tu es sûr de ça? Je les ai sentis. J'imagine que c'est le robot qui les gardait. Pourquoi ces types prendraient 50 ou 60 chevaux, forcément tous de la même couleur? Parce qu'ils ne pensent pas aux loups, ou à ce qui les concerne, ils sont trop occupés à avoir peur, je suppose, répondit Roland. Eddie sifflota 5 notes qui ne firent pas vraiment une mélodie, puis il répéta « Des chevaux gris ». Roland hocha la tête. « Des chevaux gris ». Ils se regardèrent pendant quelques secondes, puis éclatèrent de rire. Eddie adorait entendre Roland rire. C'était un son sec, aussi désagréable que les cris poussés par ses grands-mères l'appelaient « rouilleux ». Mais il adorait ça. Peut-être parce que Roland riait tellement rarement. C'était la fin de l'après-midi. Au-dessus d'eux, les nuages s'étaient dilués dans le ciel au point d'en prendre presque la teinte bleu pâle. La troupe d'Overholser avait regagné son campement. Susanna et Jake étaient retournés aux abords de la forêt pour cueillir d'autres boules rêves. Après le gros repas qu'ils avaient avalé, ils n'en auraient pas supporté plus. Eddie était assis sur un tronc d'arbre à tailler un morceau de bois au couteau. À côté de lui, Roland était installé face à leurs armes, toutes démontées et étalées en pièces détachées sur une peau de cerf. Il graissait les pièces une par une, brandissant chaque culasse et chaque barillet dans la lumière du jour pour un dernier coup d'œil avant de tout remonter. « Tu leur as dit que ça les dépassait ?» fit Eddie. « Mais ils n'ont pas cherché à comprendre, pas plus que cette histoire de chevaux gris. Et tu n'as pas insisté. » « Ça n'aurait fait que les abattre un peu plus, » répondit Roland. À Gilead, il y avait ce proverbe qui disait « Laisse le mal choisir son jour. » Hein. Il y en avait un autre à Brooklyn. La morve sur une veste en daim, ça part mal. Il exhiba l'objet qu'il était en train de tailler. C'était un calot, un jouet pour bébé, se dit Roland. Et une fois de plus, il se demanda ce qu'Eddie savait exactement de la femme à côté de laquelle il dormait toutes les nuits. Les femmes. Elles ne venaient pas en tête de ses préoccupations, mais juste en dessous. Si on décide qu'on peut les aider, alors on devra les aider. C'est à ça que ça revient, la voix d'Eld. Pas vrai? Oui. Et si on n'arrive pas à les convaincre de se battre, on se battra tout seul? Oh, je m'inquiète pas pour ça, dit Roland. Devant lui était posée une soucoupe remplie d'huile claire. Il trempa le coin d'une peau de chamois dans le liquide, saisit le chargeur du Rugger de Jake et se mit à le nettoyer. Tianja Fort sera de notre côté, et il a sûrement un ou deux amis qui en feraient autant, quelle que soit la décision du conseil. Il y a sa femme, à la limite. Et si on les fait tuer tous les deux, que deviendront leurs gosses? Ils en ont 5. Et puis, il me semble qu'on a aussi un vieux dans l'histoire, le pépé de l'un d'eux. Il s'occupe probablement de lui aussi. Roland haussa les épaules. Quelques mois plus tôt, Eddie se serait trompé sur la signification de ce geste et sur l'impassibilité du pistolero, et aurait pris cela pour de l'indifférence. Aujourd'hui, il avait compris que Roland était prisonnier de ses règles et de ses traditions, comme Eddie l'avait été de l'héroïne. Et si nous, à glander avec les loups, là, on se fait tuer dans cette charmante bourgade? Demanda Eddie. Tu crois pas que ta dernière pensée sera du genre? Quel couillon je fais, je peux pas y croire, j'ai bousillé mes chances d'arriver à la tour sombre pour aider une bande de sales morveux. En gros. À moins de faire preuve de droiture, nous n'arriverons jamais à moins de 150 kilomètres de la tour sombre, répliqua Blunt. Tu oserais me dire que ce n'est pas ce que tu ressens ? Eddie ne pouvait dire une chose pareille car il était d'accord avec Roland, et il ressentait aussi autre chose, une sorte d'impatience sanguinaire. Il voulait se battre à nouveau. Il voulait tenir quelques-uns de ses loups en joue avec l'un des gros revolvers de Roland. Pas la peine d'essayer de se leurrer, il avait besoin de s'offrir 2 ou 3 scalps, ou quelques masques de loup. Qu'est-ce qui te tracasse vraiment, Eddie ? Maintenant qu'on est tous les deux, je vais te parler. La bouche du pistolet roux se fendit en un petit sourire oblique. S'il te siège, je te prie. Ça se voit tant que ça. Roland haussa les épaules et attendit. Eddie réfléchit à la question. C'était une grande question. À se la poser, il se sentait désespéré et inadapté, comme quand il avait fallu qu'il taille la clé qui permettrait à Jake Chambers de revenir dans leur monde. Sauf qu'alors, il avait pu s'en prendre au fantôme de son grand frère, Henry, qui lui chuchotait directement dans le cerveau qu'il n'était qu'un bon à rien, qu'il avait toujours été et serait toujours un bon à rien. Mais là, c'était juste l'énormité de ce que Roland demandait. Car tout le tracassait, tout allait de travers, tout. De travers n'était peut-être pas l'expression adéquate, loin de là. Parce que, d'un autre côté, tout allait trop bien. Tout était trop parfait. Trop... fit Eddie. Il saisit une touffe de cheveux de chaque côté de sa tête et se mit à tirer dessus. Je ne sais pas par où commencer. Alors dis la première chose qui te vient à l'esprit, n'hésite pas. 19, lâcha Eddie. Tout est en train de virer au 19. Il se laissa basculer en arrière sur la terre odorante de la forêt, se recouvrit les yeux de ses mains et se mit à taper des pieds comme un gosse qui pique une colère. Peut-être que si je tue quelques loups, ça me remettra les idées en place. Peut-être que c'est tout ce qu'il faut, se dit-il. 2. Roland lui laissa une pleine minute, puis finit par dire « Tu te sens mieux ?» Eddie se rassit. « En fait, oui. » Roland hocha la tête, un petit sourire aux lèvres. « Alors tu peux peut-être m'en dire un peu plus ?»« Si tu ne peux pas, tant pis, mais j'en suis venu à respecter tes sentiments, Eddie, beaucoup plus que tu ne l'imagines. Et si tu souhaites parler, j'écouterai bien volontiers. » Il disait vrai. De prime abord, les sentiments du pistolero à l'égard d'Eddie avaient balancé entre la prudence et un certain mépris pour ce que Roland considérait comme ses faiblesses de caractère. Le respect avait mis plus longtemps à s'imposer. Il était venu dans le bureau de Balassar quand Eddie s'était battu nu. Parmi les hommes que Roland avait connus, très peu en auraient été capables. Puis le respect s'était renforcé quand il avait mesuré combien Eddie ressemblait à Cuthbert. Puis, à bord du monorail, Eddie avait fait preuve d'une créativité désespérée que Roland admirait, mais ne pourrait égaler. Comme Cuthbert Allgood, Eddie Dean possédait ce sens déconcertant et parfois exaspérant du ridicule. Il possédait aussi les incroyables éclairs d'intuition d'Alan Jones. Pourtant, Eddie ne ressemblait vraiment à aucun des vieux amis de Roland. Il lui arrivait de se montrer faible ou égocentrique, mais il disposait d'énormes réserves de courage et aussi du petit frère du courage, ce qu'Eddie lui-même appelait parfois « du cœur ». Mais c'était son intuition que Roland voulait sonder pour l'instant. « D'accord, allons-y, » fit Eddie. « Ne m'interromps pas. Ne me pose pas de questions. Écoute, c'est tout. » Roland fit oui de la tête et espéra que Susanna et Jake n'allaient pas réapparaître tout de suite. « Si je regarde dans le ciel, là-haut où les nuages se dissipent en ce moment même, je vois le nombre 19 écrit en bleu. » Roland leva les yeux. « Eh oui, il était bien là. Il le voyait lui aussi. » Mais il voyait également un nuage en forme de tortue, et une autre trouée lui fit penser à un chariot couvert. « Je regarde dans les arbres et je vois ce 19, dans le feu 19 encore, les noms font 19, comme Overholser et Callahan. Ça, c'est pour ce que je peux dire, ce que je vois, ce que j'arrive à définir. » Eddie parlait à toute vitesse, avec une sorte d'urgence, en regardant Roland droit dans les yeux. « Autre chose. C'est lié au Vahadash. Je sais que tous les trois, vous vous dites parfois que tout me rappelle mon état quand j'étais défoncé, et vous avez peut-être raison. Mais, Roland, le Vahadash, c'est vraiment comme être défoncé. » Eddie parlait toujours de ces choses-là comme si, de toute sa vie, Roland ne s'était jamais fourré de plus fort dans le cerveau ou dans les narines que du graff, ce qui était loin d'être le cas. À l'occasion, il le rappellerait à Eddie, mais pas maintenant. « Être là, dans ton monde, c'est comme être Vahadash, parce que... » « Ah, mon vieux, c'est dur. Roland, tout ici est réel, mais ne l'est pas. » L'espace d'une seconde, Roland faillit rappeler à Eddie qu'il ne s'agissait pas de son monde, plus maintenant. Pour lui, la cité de l'Ade avait marqué la fin de l'entre-deux mondes et le commencement de tous les mystères qui les attendaient au-delà. Mais, une fois de plus, il garda le silence. Eddie saisit une poignée d'humus, serrant les aiguilles odorantes entre ses doigts et laissant sur le sol de la forêt une marque noire en forme de main. « C'est réel, je le sens et je le respire. » Il porta la poignée d'aiguilles à sa bouche et les toucha du bout de la langue. « Ça a un goût. Et pourtant c'est aussi irréel que ces 19 que je vois dans le feu ou que ce nuage dans le ciel qui ressemble à une tortue. Tu comprends ce que je veux dire ?»« Je comprends très bien, » murmura Roland. « Les gens sont réels, toi, Susanna, Jake, ce type Garcher qui avait enlevé Jake, Overholzer et les Slightman. Mais cette façon qu'ont les choses de mon monde de surgir ici, ça n'est pas réel. Ça n'est ni logique, ni sensé, d'ailleurs. Mais ça, c'est autre chose. Ça n'a rien de réel. Pourquoi les gens d'ici chantent-ils « Hey Jude » Je ne sais pas. Cet ours cyborg, Chardik, d'où je connais son nom. Pourquoi il me fait penser à des lapins? Et toutes ces conneries, genre magicien d'Oz, Roland, tout ça nous est bel et bien arrivé, je n'ai aucun doute là-dessus, mais en même temps, ça ne me paraît pas réel. Ça ressemble au Vahadash, au 19. Et après le palais vert, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, on marche dans les bois comme Hansel et Gretel, on suit une route, on tombe sur des boules rêves, la civilisation est morte, tout se défait, c'est toi qui nous l'as dit, on l'a vu de nos yeux, à l'œd, sauf que tu sais quoi? Bingo, bande de cons, vous vous êtes encore fait rouler. Eddie eut un petit rire, perçant et malsain. Lorsqu'il se passa la main dans les cheveux pour les mettre en arrière, il laissa une traînée noire de terre sur son front. Le plus drôle, c'est qu'ici, au milieu de nulle part, on tombe sur une ville sortie d'un bouquin. Civilisée, honnête, le genre de gens qu'on a l'impression de connaître. On ne les aime peut-être pas tous. Overholzer est un peu dur à encaisser, mais on a l'impression de les connaître. Une fois encore, Eddie avait raison. Roland n'avait pas encore vu Calabrian Sturgis. Pourtant, la ville lui rappelait déjà Mégis. Pour des raisons tout à fait rationnelles, les villes de fermiers et de ranchers du monde entier avaient des points communs, mais aussi pour d'autres raisons plus dérangeantes, sacrément dérangeantes. Par exemple, ce sombrero que porte Slightman. Était-il possible qu'à des milliers de kilomètres de Mégis, les hommes portent des chapeaux semblables? Sans doute, supposa-t-il. Mais quel sens voir dans le fait que le chapeau de Slightman lui rappelle tellement celui que portait Miguel, le vieux Mozo de front de mer à Mégis tant d'années auparavant? Ou bien, était-ce son imagination? Pour ce qui est de ça, d'après Eddie, je n'en ai pas, pensa Roland. La ville sortie d'un bouquin a un problème genre conte de fées, poursuivit Eddie. Alors les types du bouquin font appel à des héros de cinéma pour les sauver des méchants de contes de fées. Je sais que c'est réel, que des gens vont mourir, c'est sûr, et que le sang sera réel, que les hurlements seront bien réels, que les pleurs ensuite seront réels eux aussi. Mais en même temps, ça a quelque chose d'aussi irréel qu'un décor de théâtre. « Et New York ?» demanda Roland. « Comment t'as paru New York ?»« Comme avant, » répondit Eddie. « Je veux dire, pense à un truc. » Il restait 19 livres sur la table une fois que Jake a pris Charlie le chouchou et le livre de devinette. Et puis, tout à coup, qu'est-ce qui débarque en plein New York? Balassar, ce connard! « Hey, oh, là-bas » lança Susanna derrière eux d'un air joyeux. « Pas d'obscénité, les garçons !» Jake l'a poussé sur la route et elle avait sur les genoux des tas de boules rêves. Ils avaient l'air tous deux heureux. Roland se dit que le bon repas qu'ils avaient fait devait y être pour quelque chose. Parfois, ce sentiment d'irréalité s'estompe, pas vrai? Ça n'est pas exactement un sentiment d'irréalité, Roland, c'est... On va pas découper les clous pour en faire des punaises. Parfois, ça s'estompe, pas vrai? Oui, admit Eddie, quand je suis avec elle. Il alla vers elle, se pencha, l'embrassa, et Roland les regardait, troublé. 3. La lumière du jour se retirait. Ils s'assirent autour du feu et la laissèrent partir. Le peu d'appétit qui leur était revenu avait été franchement contenté par les boules rêves rapportées par Susanna et Jake. Roland méditait sur une chose que Slightman avait dite, sans doute plus que de raison. Il décida de laisser sa réflexion en plan pour la reprendre plus tard. Rendez-vous plus tard cette nuit, à New York, à plusieurs ou tous ensemble, dit Roland. J'espère juste que j'irai quelque part ce coup-ci, répondit Susanna. C'est le cas qui en décidera, fit Roland imperturbable. L'important, c'est que vous restiez groupés. Si l'un de vous se retrouve à faire le voyage tout seul, je pense que ce sera vraisemblablement toi, Eddie. Donc, si l'un de vous se retrouve seul, il faudra qu'il reste exactement là où il, ou bien elle, arrivera, jusqu'à ce que le carillon résonne de nouveau. Le Kamen, c'est comme ça qu'Andy l'appelle. Vous avez tous bien compris? Ils acquiescèrent, et en regardant leur visage, Roland comprit que chacun d'entre eux se réservait le droit de choisir ce qu'il allait faire le moment venu. Ce qui était parfait. Après tout, on était pistolero ou on ne l'était pas. Il se surprit à lâcher un petit rire de gorge.
Qu'est-ce que ça a de si drôle? Demanda Jake.
J'étais juste en train de me dire que la vie vous amène de bien étranges compagnons, dit Roland. Si c'est de nous que tu parles, fit Eddie, laisse-moi te dire une bonne chose, Roland. T'es pas franchement le mec normal par excellence, toi non plus. Sans doute. Si c'est un groupe qui passe, disons, deux, un trio, voire nous tous, alors il faudra se donner tous la main au moment du carillon. Andy a dit qu'il fallait se concentrer les uns sur les autres, rappela Eddie, pour éviter de se perdre. Susanna provoqua la surprise générale en se mettant à chanter. Seulement, pour Roland, ce chant ressemblait plus à un chant de galérien, à scander une phrase à la fois, qu'à une véritable chanson. Pourtant, même sans vraie mélodie, sa voix était harmonieuse. « Enfant, quand vous entendrez le chant de la clarinette, enfant, quand vous entendrez le chant de la flûte, enfant, quand vous entendrez le chant du tambourin, vous devrez vous incliner et vénérer l'idole. » Qu'est-ce que c'est que ça?
Un chant d'esclave, le genre de truc que mes grands-parents et mes arrière-grands-parents devaient chanter en ramassant le coton de l'Emassa. Mais les temps changent. Elle sourit.
Je l'ai entendu pour la première fois dans un café de Greenwich Village en 1962. Et le type qui la chantait était un brailleur de blues blanc du nom de Dave Van Ronk.
Je parie qu'Aaron Dipnow était là lui aussi, soupira Jake. Bon sang, je parie qu'il était assis à la table d'à côté.
Susanna se tourna vers lui, surprise et perplexe.
Pourquoi tu dis ça, mon chou?
Ce fut Eddie qui répondit.
Parce qu'il a entendu Calvin Tower dire que ce Dipnow traînait dans le village depuis... Qu'est-ce qu'il a dit, Jake?
Pas dans le village, dans Bleecker Street, reprit Jake en riant un peu.
Monsieur Tower a dit que Monsieur Dipnow traînait déjà à Bleecker Street avant que Bob Dylan ait appris à tirer un accord de sa honneur.
Ça doit être un harmonique, hein?
Mais c'est ça, fit Eddie.
Eh bien que je ne mise pas la ferme sur ce que dit Jake, je parierais bien plus que mes fonds de poche, c'est sûr. Dipnow y était. Je ne serais même pas surpris de découvrir que c'est Jack Andolini qui tenait le bar, parce que c'est comme ça que ça se passe, au pays de 19.
Quoi qu'il en soit, dit Roland, ceux d'entre nous qui traverseront devront rester ensemble. Et quand je dis ensemble, je veux dire à moins d'un mètre, tout le long.
Je ne crois pas que j'y serai, dit Jake.
Pourquoi tu dis ça, Jake? Demanda le pistolero surpris.
Parce que je n'arrive jamais à m'endormir, je suis bien trop excité. »
Mais ils finirent tous par s'endormir.
4.
Il sait que ce n'est qu'un rêve suscité par une vague remarque de Slightman, et pourtant il ne pouvait pas y échapper.
« Cherche toujours une porte arrière !» lui répétait Cort.
Mais s'il y avait une porte de sortie dans ce rêve, Roland ne parvenait pas à la trouver.
« J'ai entendu parler de Jericho Hill et tous ses récits à sensation. »
Voilà ce qu'avait dit le contremaître d'Eisenhart. Seulement Jericho Hill était bien réel pour Roland. Et comment en aurait-il été autrement? Il y était allé pour leur perte, la fin de tout un monde. Il fait une chaleur suffocante. Le soleil atteint son zénith, semble s'y plaire, et reste là, comme si les heures étaient suspendues. En contrebas, s'étend un long champ en pente rempli de visages de pierres gris-noires, des statues érodées, abandonnées là par des gens disparus depuis longtemps. Et les hommes de Grissom avancent implacablement sur eux, tandis que Roland et ses tout derniers compagnons battent en retraite, toujours plus haut, sans cesser de tirer. La fusillade est sans fin, le sifflement des balles le long des visages de pierre leur sonne aux oreilles en une plainte stridente qui leur vrille le cerveau comme la plainte assoiffée de sang des moustiques. Jamie de Curry s'est fait tuer par un tireur embusqué, peut-être le fils de Grissom avec son œil de lynx, ou bien Grissom lui-même. Pour Alain, la fin était bien pire. Il a été tué dans le noir la veille de la bataille finale par ses deux meilleurs amis, une erreur stupide, une mort horrible. Ils n'ont rien pu faire. La colonne de deux mulettes a essuyé une embuscade et s'est fait massacrer à Rim Rocks, et Alain est revenu en pleine nuit le leur dire, à lui et à Cuthbert, le tir de leurs armes, et horreur, Alain qui criait leur nom. Et maintenant les voilà au sommet, et ils n'ont plus nulle part où s'enfuir. Derrière eux, vers l'est, un précipice argileux et friable qui descend vers le sel. Les 800 kilomètres au sud s'appellent la mer limpide. À l'ouest, c'est la colline au visage de pierre et les troupes de Grissom qui hurlent et avancent toujours. Roland et ses hommes en ont tué des centaines, mais il en reste 2000 au minimum. 2000 hommes, le visage mugissant et peint en bleu, certains armés de fusils et parfois même de bolts, contre une douzaine. C'est tout ce qu'il reste d'eux au sommet de Jericho Hill, sous ce ciel en feu. Jamie, mort. Alain, tombé sous les balles de ses meilleurs amis. L'impassible et fiable Alain qui aurait pu se mettre à l'abri, mais qui en avait décidé autrement. Et Cuthbert, qui a pris des balles. Combien? 5, 6. Sa chemise écarlate lui colle à la peau. Il a la moitié du visage baigné de sang. Son œil aveugle pend sur sa joue. Et pourtant, il tient toujours le corps de Roland, celui que faisait sonner Arthur l'aîné, à en croire les histoires qu'on raconte. Il ne le rendra pas. « Car j'en joue avec plus de grâce que toi, » dit-il à Roland de Rion. « Tu pourras le récupérer quand je serai mort. N'oublie pas de me l'arracher, Roland, car il t'appartient. » Cuthbert Allgood, qui un jour est entré à cheval dans Mégis, avec un crâne de corbeau accroché au pommeau de sa selle. La vigie, comme il l'avait appelée. Il lui parlait comme s'il était vivant, parce que tel était son bon plaisir, et parfois il rendait Roland fou avec ses enfantillages. Et le voilà, sous ce ciel de plomb, avançant vers lui en titubant, avec dans une main un revolver fumant, et dans l'autre le corps d'Eld, et il est couvert de sang, à demi aveugle et mourant, mais toujours en riant. Ah, grand Dieu, riant encore et encore.
« Roland ! » crie-t-il. « On nous a trahis, on est débordés, on tourne le dos à la mer, ce qui veut dire qu'on les prend où on veut. Est-ce qu'on charge ?»
Et Roland comprend qu'il a raison. Si leur quête de la tour sombre doit vraiment s'achever ici, à Jericho Hill, trahi par l'un des leurs, puis débordé par ces vestiges barbares de l'armée de John Farson, alors que cette fin soit splendide.
« Si fait !» hurle-t-il. « Si fait, très bien !» Vous autres du château, à moi, pistoleros, à moi, vous dis-je!
Pour les pistoleros, Roland dit Cuthbert, je suis là, et nous sommes les derniers. Roland le regarde, puis le prend dans ses bras sous ce ciel ignoble. Il sent le corps brûlant de Cuthbert, cette maigreur et ses tremblements suicidaires, et pourtant, il rit toujours. Bert rit toujours. « Très bien !» dit Roland d'une voix rauque, balayant du regard les quelques hommes qui lui restent. « On fonce, pas de quartier !»«
Non, pas de quartier, absolument !» confirme Roland.
« Pas question d'accepter qu'ils se rendent !»
Pas question, renchérit Cuthbert, riant plus fort que jamais. Pas même si les 2000 déposent les armes. Alors fais sonner ce putain de corps.
Cuthbert porte le corps à ses lèvres en sang et souffle de toutes ses forces. La dernière sonnerie, car lorsque le corps lui glisse des doigts une minute plus tard, ou peut-être 5 ou 10, le temps n'a plus de sens dans cette bataille ultime. Rolland le laisse gisir dans la poussière. Noyé dans son chagrin et dans sa folie meurtrière, il oublie le corps d'Eld.
À présent, mes amis, allez! Allez!
Hurle la dernière douzaine d'hommes sous le soleil flamboyant. C'est la fin pour eux, la fin de Gilead, la fin de toute chose, et plus rien n'a d'importance pour lui. La vieille fureur aveugle et écarlate, âpre et horripilante, s'insinue dans son esprit, noyant toute pensée. Une dernière fois, alors, se dit-il. Ainsi soit-il.
À moi! Hurle Roland de Gilead. En avant! Pour la tour! La tour!
Crie Cuthbert à ses côtés, chancelant. D'une main, il brandit le corps d'Eld vers le ciel. De l'autre, il tient son revolver.
Pas de prisonniers! Hurle Roland. Pas de prisonniers!
Il se précipite en avant, dévalant la pente vers la horde des visages bleus de Grissom, lui et Cuthbert en tête, et tandis qu'il dépasse les premiers visages de pierre gris-noir gisant dans l'herbe haute, que les lances, les bolts et les balles volent tout autour d'eux, le carillon se met à résonner. Une mélodie, bien au-delà de toute beauté, qui par son insoutenable pureté menace de le réduire en lambeaux.
« Pas maintenant !» se dit-il. « Ah, grand Dieu, pas maintenant !» Laissez-moi finir, avec mes amis à mes côtés, que j'aille enfin en paix, par pitié !»
Il tend la main vers celle de Cuthbert. L'espace d'un instant, il sent entre les siens les doigts gluants de sang de son ami, là, à Jericho Hill, où son existence riante et malheureuse s'éteint. Puis, le contact de ses doigts disparaît. Ou plutôt, ses doigts, à lui, sont passés à travers ceux de Bert. Il tombe, le monde s'obscurcit, il tombe, le carillon résonne, le kamen résonne.
Hein, qu'on dirait de la musique hawaïenne.
Et il tombe. Jericho Hill disparaît, le corps d'Eld disparaît, il n'y a que les ténèbres et ses lettres rouges dans les ténèbres. Certaines sont des grandes lettres, assez grandes pour qu'il puisse déchiffrer les mots, ces mots qui disent...
5. Il disait « Attendez, piétons ». Pourtant, Roland vit les gens traverser la rue malgré le feu. Ils jetaient un regard furtif en direction du flot de véhicules et puis ils y allaient. Un type traversa sous le nez d'un taxi jaune. Le taxi fit une rambardée et klaxonna, sans se laisser impressionner. Le type se mit à brailler et brandit le majeur de sa main droite en direction du véhicule qui s'éloignait. Roland supposa vaguement que le sens de ce geste ne devait pas être que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. Il faisait nuit sur New York. Et bien qu'il y eût des gens partout, il ne vit aucun membre de son quatête. Roland devait bien admettre qu'il se retrouvait face à une éventualité qu'il n'avait pas envisagée, que la seule personne à traverser pût être lui. Pas Heidi, lui. Au nom de tous les dieux, où diable était-il censé aller? Et une fois là-bas, qu'était-il censé y faire?
Rappelle-toi le conseil que tu as donné toi-même, se dit-il. Si l'un de vous se retrouve tout seul, qu'il reste exactement où il est. Mais est-ce que ça signifiait que l'on est là? Il leva les yeux vers le feu, au coin de la 2e avenue et de la 54e rue, planté là, à regarder un feu passer d'un « attendez piéton rouge » à un « passé piéton blanc ». Tandis qu'il essayait de trancher, il s'entendait appeler par une voix aiguë et folle de joie.
« Roland, trésor, retourne-toi, regarde-moi bien !»
Roland se retourna, sachant déjà ce qu'il allait voir, mais ne pouvant s'empêcher de sourire. Quelle horreur d'avoir dû revivre cette journée à Jericho Hill, mais quel antidote merveilleux que celui-ci. Susan Dean, descendant la 54e rue pour venir à sa rencontre, riant et pleurant de joie à la fois, les bras tendus vers lui.
« Mes jambes !» hurlait-elle à plein poumon. « Mes jambes! J'ai retrouvé mes jambes! Oh, Roland, mon chou! Gloire à l'homme Jésus! J'ai retrouvé mes jambes !»